France Inter, le journal. Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour. Boris Johnson au 10 Downing Street, c'est une question d'heure. Les conservateurs britanniques ont voté. Résultat officiel dans la matinée et ambiance à couteau tiré dans la capitale. Pour plusieurs ministres, pas question de rester les bras croisés si c'est Bojo qui mène la danse. On sera en direct de Londres au début de ce journal. Boris Johnson, grand chouchou et gros défi, le Brexit et puis aussi la crise avec l'Iran. L'Iran, justement, on en parle avec vos deux invités, Frédéric Mettezo à 8h20.
Le spécialiste de l'Iran, Thierry Coville, et l'ancien ambassadeur de France dans ce pays, François Nicoulot, poker menteur dans le détroit d'Ormuz, ou bien troisième guerre du Golfe en préparation. À quoi jouent Trump et les Iraniens? Quel rôle pour la France et les Européens? Posez vos questions dans le grand entretien. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Écrivez-nous sur franceinter.fr, Hélène.
Quand le soleil devient chape de plomb, 42 à Agen aujourd'hui, 39 à Rennes, canicule oblige, EDF ferme deux réacteurs dans sa centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. On verra pourquoi. La Syrie, des bombes sur des civils à Idlib hier depuis Beyrouth. Notre correspondante a pu joindre des habitants, ils accusent la Russie. Et puis l'idole des jeunes, écolo, Greta Thunberg à l'Assemblée nationale aujourd'hui, jour de vote du CETA. Le tour repart avec le pont du Gard au programme. Enfin, elle résiste, prouve qu'elles existent. 200 millions de cartes postales vendues chaque année en France. Le vote pour le Brexit, c'était il y a 3 ans pour en arriver là. Boris Johnson, aux portes du pouvoir, l'ancien maire de Londres, devenu europhobe pour sortir du lot, qui promet aujourd'hui un Brexit dur, chouchou de ses militants conservateurs qui ont tranché l'avenir du pays et avec celui de l'Europe. On saura donc dans la matinée si c'est bien Bojo, le nouveau patron des Tories et du Royaume-Uni. Clôture des votes hier en fin d'après-midi à l'heure du thé. Antoine Gignot, vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Bonjour. Que dit la presse britannique ce matin, à quelques heures du résultat? Quelle est l'ambiance dans la capitale?
Eh bien, elle est un peu électrique, l'ambiance, ce matin, mélodramatique même, parce que Boris Johnson promet de quitter l'Union européenne, coûte que coûte, le 31 octobre prochain, et une partie des députés, y compris au sein de la majorité, menace du coup de le faire tomber le plus vite possible. Dans le Télégraphe, il lance un avertissement: si le nouveau Premier ministre emmène le pays vers un no deal, vers un Brexit radical, il y aura une motion de défiance au Parlement. Le Guardian fait d'ailleurs la liste des ministres qui menacent de démissionner avant l'arrivée de Johnson à Downing Street pour montrer leur opposition, leur colère. Il y a Sir Alan Duncan, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Philip Hammond, le ministre des Finances, David Gauke à la Justice. Tout va dépendre en fait des premières annonces qui seront faites tout à l'heure ou demain lors de la prise de fonction officielle. Boris Johnson va sans doute appeler à l'unité du pays en annonçant des mesures sociales, l'augmentation du budget de l'éducation, augmentation du nombre de policiers pour lutter contre les attaques au couteau. Mais il va aussi sans doute donner les noms de ses plus proches collaborateurs. Il y aura probablement l'arrivée au pouvoir de plusieurs figures europhobes et radicales comme Jacob Rees-Mogg ou comme David Davis, l'ancien ministre du Brexit. Et ça risque évidemment de cristalliser les tensions.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter, merci à vous. Au passage, sachez qu'il y a un dossier complet sur Boris Johnson et les enjeux de cette élection sur franceinter.fr. Un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni donc met toujours les mêmes problèmes: sortir de l'impasse du Brexit et désormais aussi la nécessité de résoudre la crise avec l'Iran, notamment la crispation autour des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et alors que l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien n'a jamais été autant menacé, l'AIEA, le gendarme du nucléaire mondial, va devoir se trouver un nouveau patron. Le japonais Yukiya Amano, en poste depuis 10 ans, est mort hier à 72 ans. Le dossier iranien, on en reparle donc avec vos invités dans quelques minutes, Frédéric.
Oui, à 8h20 dans le grand entretien. Pour l'heure, il est 8h04. Hélène Roussel, en France, c'est la chaleur qui occupe toutes les conversations.
Elle sera brève mais intense, avec de nouveaux records de température. 42 à Agen, 39 à Rennes aujourd'hui. On attend plus de 40 degrés aussi jeudi en région parisienne. Deuxième canicule en moins d'un mois, 59 départements au total en alerte orange et 73 concernés par la sécheresse. Voici EDF qui annonce hier l'arrêt de deux réacteurs nucléaires de sa centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Pourquoi? Réponse avec Julien Balidas.
En fait, EDF utilise l'eau des fleuves pour refroidir les réacteurs avant de rejeter cette même eau. Mais une fois passée dans le réacteur, eh bien l'eau prend en température et cela pourrait avoir des conséquences sur la faune et la flore aquatique. Golfech produit un peu moins de 5% de l'électricité nucléaire en France. Et même si la consommation va augmenter dans le pays avec la canicule, l'arrêt des deux unités du Tarn-et-Garonne n'aura pas d'impact. Les autres réacteurs seront suffisants. C'est pour ça également qu'à Golfech, on peut ralentir, voire arrêter rapidement la production d'électricité. EDF espère redémarrer les réacteurs dans une semaine, le 30 juillet, après l'épisode de forte chaleur.
La chaleur et la pollution, ça va de pair dans les grandes villes Paris et Lyon. La circulation alternée mise en place du côté de Marseille, il faudra réduire sa vitesse de 20 km/h. Le soleil, le vent, ça donne aussi des incendies spectaculaires au Portugal depuis ce week-end dans la région montagneuse de Castelo Branco. Les pompiers ne s'en sortent plus. Le Portugal a demandé hier soir l'aide des bombardiers d'eau espagnols. Et quand on parle de dérèglement climatique, elle se pose là. Greta Thunberg, l'adolescente suédoise, icône de la lutte contre le réchauffement climatique, est invitée à venir parler ce midi à l'Assemblée nationale. Certains députés français de droite ont décidé de la boycotter. Pour eux, elle n'est pas une lanceuse d'alerte légitime. La jeune suédoise leur a déjà répondu. Ils ont plus peur de moi que du vrai problème. Interview de Greta Thunberg à Combini News hier. Et puis au menu encore de l'Assemblée, le vote du CETA, anti-écolo d'ailleurs pour certains. C'est aujourd'hui en tout cas que les députés ratifient l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. En bref encore, quand l'Assemblée enquête sur son ex-président, quand Matignon enquête sur son ex-ministre, les deux enquêtes internes sur le train de vie de François de Rugy sont publiées aujourd'hui. Plusieurs fuites évoquent des rapports qui le dédouanent. Les repas au homard, des dîners professionnels, des travaux dans son logement de ministre, rien de superficiel. Et François de Rugy, combatif, prêt déjà à la contre-attaque contre Mediapart, une première plainte en diffamation a été déposée.
Où en est-on du référendum d'initiative populaire, de ce RIP contre la privatisation des aéroports de Paris?
Pas bien loin. 556 000 signatures, il en faudrait encore 4 millions. Les parlementaires de droite comme de gauche, mobilisés contre cette privatisation, doivent rencontrer cet après-midi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour exiger une vraie campagne publique. Laurence Perron.
Mi-juin, c'est parti en mode fusée. En 10 jours, quelques 250 000 signatures. Les médias alors relaient à fond cette drôle d'alliance qui va du LR Gilles Carrez à l'insoumis François Ruffin.
Eh ben tant mieux si la droite s'y met. Si jamais il y a des militants de droite qui font les marchés, qui font les hypermarchés ou qui font les golfs, eh ben tant mieux.
Assez vite toutefois, des bugs. Le site a été pensé avec un logiciel 13 siècles dernier et le Conseil constitutionnel reconnaît qu'il reçoit énormément de plaintes. Début juillet, moins de récriminations, mais aussi beaucoup moins de signatures. Autour de 4 000 par jour, là où il en faudrait autour de 27 000 pour atteindre les 4,7 millions de signatures requises. Les socialistes, à l'origine de la proposition, s'insurgent. Pour le grand débat, on a mis 12 millions d'euros pour faire un site très bien, tonne le patron des sénateurs PS Patrick Kanner. Pour le RIP, c'est un minitel. Autre difficulté, le manque d'informations. Les parlementaires coalisés pour ce référendum exigent qu'il y ait une vraie campagne sur l'audiovisuel public. Le CSA devrait se prononcer aujourd'hui, mais les pro-référendums ne se font guère d'illusions. Et en attendant la tournée des golfs, les socialistes font une tournée des plages qui commence demain sur les quais de Seine. Attention, jeu de mots, Paris, plage.
Laurence Perron, du logement social en Airbnb, c'est illégal, mais ça se fait notamment à Paris. Dans un immeuble du 20e arrondissement, normalement dédié aux jeunes travailleurs, l'un de ces appartements s'arrache sur la plateforme contre 55 euros la nuit. Yann Brossa, l'adjoint au logement à la mairie, dénonce sur Twitter une pratique inacceptable. Airbnb, dit-il, doit rembourser les commissions et il faut résilier le bail de ces locataires peu scrupuleux. Selon le journal Le Parisien ce matin, des centaines d'annonces de ce type ont été mises en ligne sur Airbnb depuis 2 ans. Quel avenir pour les ex-Whirlpool d'Amiens? La clôture des candidatures pour la reprise du site, c'est aujourd'hui avec 3 offres sur la table. La société WN qui a repris l'usine est elle-même en redressement judiciaire malgré les aides publiques et Bercy a lancé un audit financier. Mais on sait déjà que la plupart des 162 salariés vont se retrouver sur le carreau. La pilule est difficile à avaler pour Patrice Sinoquet de la CFDT.
Il y a un an, quand Whirlpool a fermé, il y avait un plan, il y avait de la formation, il y avait la possibilité de formation, il y avait du congé de reclassement, il y avait de la création d'entreprise, il y avait de l'accompagnement pour aller vers l'emploi. Mais demain, ces gens-là vont sortir, ils n'auront rien du tout. Malgré tout l'argent qui a été mis sur la table, aussi bien de Whirlpool que du contribuable, on peut se rendre compte qu'au final, il n'y a rien du tout. Il n'y a jamais eu de production dans cette usine-là. On fait intervenir Bercy, enquête, tout le machin, pour se rendre compte que c'est une boîte qui va fermer, mais simplement qu'il fallait se bouger quand même. Il y a 10 mois, hein. Quand WN a démarré le 1er juin 2018, 15 jours avant, il m'avait dit qu'il va falloir qu'on travaille à donf jusqu'au 31 décembre 2018. Et au final, on n'a rien du tout. À mon idée, on s'est fait enfumer sur le coup.
Patrice Sinoquet de la CFDT avec Laurent Kramer. Le groupe suédois Volvo rappelle plus de 500 000 voitures dans le monde, dont 29 000 en France. Un composant défectueux a été repéré dans le moteur, ce qui peut provoquer un incendie.
8h10, Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, a été bombardé hier.
Des bombes sur un marché et sur des quartiers résidentiels dans ce dernier bastion rebelle. Au moins 50 morts. Selon les ONG et les témoins sur place, ces raids aériens viennent de la Russie, alliée du régime de Bachar el-Assad. Notre correspondante à Beyrouth, Mélanie Houé, a pu contacter des habitants.
Il y a quelqu'un ? Abritez-vous ! Abritez-vous !
Farid a filmé toute la scène sur son portable. Le jeune journaliste activiste de 24 ans qui habite Maharat al-Nouman s'est rendu hier sur le marché de sa ville dès qu'il a entendu les bombardements. Contacté sur les réseaux sociaux, il raconte ce qu'il a vu.
Il y avait des corps partout qui gisaient dans les rues, des membres amputés, du sang par terre, c'était terrible. On assiste vraiment au génocide d'Idlib.
Après 3 mois de pilonnage par le régime et son allié russe, plus de 690 personnes auraient perdu la vie. Hier, Moscou a démenti toute implication dans les raids aériens. Mais sur place, on assure le contraire. Saad, 21 ans, est secouriste pour l'ONG Violette.
Des drones guidaient l'aviation russe dans le ciel. Les bombardiers russes sont partis de leur base d'Ormémine à l'attaquer, puis ont repéré ici des regroupements de civils.
L'organisation de Saad soignerait chaque jour plus de 100 blessés. Elle appelle la communauté internationale à agir pour faire taire les violences et protéger les 3 millions de civils qui vivent dans la province d'Idlib. Mélanie Houé à Beyrouth pour France Inter.
Une attaque hier au Nord-Mali de la base française de Gao. Une voiture piégée a explosé à l'entrée. 3 soldats blessés. En bref, encore Caracas et plusieurs régions du Venezuela, encore une fois plongées dans le noir hier soir. Pas d'eau, pas de transport, pas de téléphone. Nouvelle panne d'électricité géante que le gouvernement attribue comme d'habitude à une attaque électromagnétique. Le Brexit, l'Iran, on parlait des gros dossiers européens au début du journal. Eh bien voilà le troisième, la crise migratoire. L'Italie de Matteo Salvini ferme ses frontières et dénonce une indifférence des autres pays. Il va falloir peut-être trouver un autre prétexte, car hier, 14 États membres de l'Union ont donné leur accord de principe pour plus de solidarité, soit une meilleure répartition des migrants qui débarquent sur les plages de la Méditerranée. Réunion hier à Paris, présidée par Emmanuel Macron, et vu l'ampleur de la crise, eh bien les associations saluent un pas de géant. Christophe Deltombe, président de la CIMAD.
C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle que d'apprendre qu'enfin les règles de solidarité qui sont au fondement même de l'Union européenne sont remises au goût du jour et que on va s'organiser pour accueillir des personnes qui sont en grand péril et qu'on va en plus valider le fait qu'il faille sauver les personnes qui sont en Méditerranée et les sauver d'une noyade dont on sait que le taux de noyade est extrêmement élevé actuellement. Ce qui me réjouit, c'est que enfin ceux et celles qui s'opposent aux populistes européens prennent le dessus et imposent, ou en tout cas tentent d'imposer, une règle de solidarité qui est encore une fois une règle de l'Union européenne.
Le président de la CIMAD avec Lucie Barbarin. Pas d'inculpation pour Cristiano Ronaldo. Le joueur de foot portugais ne sera pas poursuivi pour viol aux États-Unis. Faute de preuves, la justice américaine a classé l'affaire.
Le Tour de France reprend la route pour une dernière semaine de compétition.
Dernière ligne, pas du tout droite. Les Alpes à l'horizon et une étape aujourd'hui dans le Gard. Grande boucle autour de Nîmes de 177 km. L'arrivée est promise aux sprinteurs. Alaphilippe, pour l'instant, toujours en jaune. L'autre français, Thibaut Pinot, à la 4e place au général. Mais où sont donc passés les favoris, les Britanniques, anciens de la Sky, Xavier Monferrand?
Ce n'est pas comme ça que cela devait se passer. Les Ineos, les anciens Sky, devaient écraser le tour, faire main basse sur la course, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que prévu. Même le tenant du titre, le gallois Geraint Thomas, le reconnaît, mais il garde le cap.
Egan est 5e, je suis 2e. Je crois qu'on se débrouille donc plutôt bien. Bon, d'accord, on n'est pas en jaune, on roule pas toute la journée devant, mais il n'y a pas qu'une seule façon de gagner le tour. Tout le monde a des hauts et des bas. Je suis confiant, la situation est bonne pour nous.
We're in a super strong position.
La Sky, désormais Ineos, c'est tout de même 6 des 7 dernières couronnes du Tour. Mais tous les règnes ont une fin et Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe britannique, sort déjà le parapluie au cas où.
La plupart des gens diront si on fait 2 ou 3, qui sera quand même incroyable, ça sera vu comme un échec. Quoi. Alors qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont jamais fait de podium dans leurs 10 ou 15 ans de World Tour. C'est comme ça, il faut l'accepter, c'est comme les grands clubs de foot qui perdent une fois une finale. Bon, mais c'est... Mais nous, on est vraiment concentrés, c'est pas sur la manière, mais vraiment, on veut essayer de gagner, quoi. C'est le principal.
Et la réponse des Britanniques est claire, le problème ne vient pas d'eux, ce sont les autres équipes qui ont haussé leur niveau. Nîmes, Xavier Monferrand, France Inter.
En mode destructeur, les épéistes français ont broyé un à un leurs adversaires hier pour reconquérir le titre de champion du monde à Budapest en Hongrie. Enfin, un vestige qui résiste au temps, la carte postale. Et elle est de saison, celle que les enfants envoient à leurs parents en ce moment depuis la colo, celle qu'on envoie aux grands-parents. Bref, 200 millions de cartes postales vendues chaque année en France. Malgré Facebook et autres Instagram, elle résiste et reprend même du poil de la bête. C'est un reportage d'Adrien Bossard.
Chers papy et mamie, nous sommes bien arrivés à Paris.
Gros bisous, on vous aime.
Un rituel pour Colline et Justine, les deux copines provençales.
Quand on va les voir, on retrouve nos cartes postales, quand on a voyagé depuis toute petite, c'est bien quoi.
Et c'est mieux que d'envoyer des photos par message, selon Mathilde.
Ma petite nièce, qui a à peine un an et demi, depuis qu'elle est née, à tous mes voyages, je lui envoie une petite carte. Je suis sûre qu'un jour, elle sera ravie de toutes les lire et peut-être qu'un jour, elle ira dans les endroits où moi-même je suis allée.
Un souvenir témoin d'un passage dans une ville, une région, un pays. Steve, un Américain en vacances à Paris, vient de trouver la carte parfaite pour son frère.
Il y en a une qui a retenu mon attention, celle d'un chat près de la tour Eiffel. Elle est vraiment, vraiment belle.
C'est la seule qu'il postera. Pour le reste, il enverra des nouvelles via les réseaux sociaux, ce qui fait du tort à tout un marché. Les fabricants s'adaptent à l'image de Xavier Lecomte, directrice générale des éditions Lecomte.
On a créé une collection d'archives. Les gens adoraient retrouver le Paris perdu avec des scènes de vie dans les années 30, 40. Ça a très bien marché.
Ce qui permet depuis 2-3 ans à sa société de se stabiliser et même mieux, elle repasse la barre du million de ventes annuelles. Tant qu'il y aura des Allemands ou des Anglais en vacances en France, pas de souci. Ils achètent entre 20 et 30 cartes postales par an et par personne. Bref, tout va bien. Bisous, signé.
Mini et Mickey pour mon copain.
Et vous, Frédéric Mettezo, qui partez bientôt à Jérusalem, nouveau correspondant à Radio France, vous nous enverrez des cartes postales. Dites.
Promis, Hélène Roussel, vous pourrez commencer une collection avec moi.
Chic.
Voilà. Merci pour le journal, Hélène. Il est 8h17. Le temps ?
La météo ? Avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Stéphanie Fromentin, l'épisode caniculaire se poursuit.
Et à 5h ce matin, sur les 59 départements placés en vigilance orange, le mercure atteignait souvent les 20-25 degrés, en particulier dans le sud-ouest. Dans la plupart de ces départements, la température cette nuit n'est pas descendue sous les 22 degrés, avec des pointes à 25, voire 26. Sont concernés par la vigilance le sud-ouest, le centre-est et toute l'Île-de-France. Le mercure devrait souvent atteindre les 40 degrés en cours de journée, avec des pics à 42 sur le sud-ouest et à 39 ailleurs. Ce qui ne signifie pas que les autres régions n'auront pas chaud, mais la canicule est un état particulier qui signifie que les températures nocturnes passent plus sous la barre des 20 degrés pendant 3 jours consécutifs. Cet après-midi donc, il fera 28 degrés à Cherbourg, 31 à Montpellier, 33 à Marseille et Belfort, 35 degrés à Strasbourg, 37 à Beauvais comme à Manosque, 38 à Gap, Paris, Saint-Étienne, 40 degrés à Tours, Laval et Périgueux, jusqu'à 42 degrés à Mont-de-Marsan.
Le ciel est plutôt dégagé.
Sur la quasi-totalité du territoire, le soleil domine. Quelques ondées cependant pourraient se déclencher à l'ouest en cours de journée, de la Bretagne au Pays de Loire et le long de la côte aquitaine. De gros cumulus donneront même cet après-midi des pluies sur le relief des Pyrénées et les Alpes du Sud.